Shalom et bonjour à tout le monde. Nous étudions aujourd'hui la paracha de Vayeshev qui constitue un tournant très important dans le livre de Bereshit, le livre des engendrements de l'identité d'Israël, puisqu'il s'agit de la première tentative d'enracinement effectif d'Israël sur sa terre. En effet, on nous raconte que Yaakov rentrait finalement dans la patrie ancestrale avec ses enfants, qui constituent le premier noyau de l'histoire d'Israël, va tenter de réussir l'histoire sans passer par l'exil, se disant que l'épreuve de l'exil, qui avait été déjà annoncée à Abraham Avinu, avait déjà été réalisée dans ses pérégrinations chez Lavan. Et donc nous avons ici, au début du texte, « Vayeshev Yaakov, Beretz Megurei Aviv, Beretz Kenaan » Yaakov s'installa dans le pays où avait pérégriné son père, dans le pays de Kenaan. Donc on peut dire qu'il y a très rapidement, de manière très succincte, toute l'espérance messianique qui se retrouve réunie dans un verset. Va Yeshev Yaakov. Yaakov veut s'installer. Nous avons en fait que tout endroit, c'est ce que dit la tradition orale, à tout endroit où il est dit Va Yeshev, on s'installa, c'est le début d'un malheur. Parce qu'on ne peut pas s'installer tant qu'on n'est pas arrivé à la fin. Ce n'est qu'à la fin de la Torah que nous avons l'expression heureuse Va Yeshev Israël, Israël s'installera. Mais effectivement, il s'agit d'une vision des fins de fin de temps, de fin des temps. Et en fait, pour l'instant, Yaakov ne peut pas véritablement réaliser l'histoire. Nous avons ici l'aventure de Yosef qui finalement va inaugurer le premier exil d'Israël en tant que nation. On peut dire que c'est une toute petite nation, il s'agira finalement de 70 personnes, mais c'est déjà un début de nation. Donc Yaakov veut s'installer dans le pays des pérégrinations de son père. Et celui qui s'y oppose, c'est finalement Yosef, le fils de Rachel, le bien-aimé de ses enfants. Elé toledot Yaakov, Yosef. Voici les engendrements de Yaakov, Yosef. Et la tradition nous dit, puisque Yaakov a voulu s'installer dans la tranquillité dans ce monde, Dieu a dit, il n'est pas possible que les tzadikim soient tranquilles dans ce monde, ils en ont assez dans le monde à venir. Et donc Yosef va s'opposer. Au nom de quoi? Quelle est l'opposition de Yosef? Yosef est un rêveur, nous le voyons, décrit en très peu de mots dans la Torah, mais c'est largement suffisant pour comprendre de quoi il s'agit. Yosef est tout d'abord indiqué comme étant quelqu'un de jeune. Vehu nar, il était un jeune homme, il était éveillé. Ce que l'on veut nous dire dans le contexte dans lequel ce récit se situe, c'est que pour Yosef, l'exil était le pays de sa jeunesse, le pays de son enfance, auquel il était sentimentalement attaché. Il en avait une nostalgie bien évidente. Il est probable que lorsqu'il avait quitté la maison de Lavan, son grand-père, il ne se rendait pas compte encore exactement de ce que cela signifiait. C'est-à-dire la tentative d'anéantissement d'Israël à sa racine par Lavan n'était pas comprise par lui, comme étant un événement traumatisant. Alors que pour ses frères, qui étaient déjà plus âgés, ils avaient compris l'ampleur de la catastrophe, et ils avaient donc décidé que l'exil n'était pas le lieu dans lequel il fallait vivre, qu'il fallait s'installer en Eretz Israël, et à partir de là, rayonner sur l'ensemble de l'humanité. Tandis que pour Yosef, il y a toujours cette tentation, justement, de ce qu'on appelle le cosmopolitisme, cette idée que le judaïsme, enfin l'hébraïsme, dans les termes de l'époque, doit se vivre sous forme d'établissement en petites communautés parmi les grandes civilisations. On peut dire que dès sa plus tendre jeunesse, Yosef rêve de féconder l'Égypte. Pour lui, l'Égypte, le lieu de la grande civilisation de l'époque, constitue le terrain privilégié pour l'action de la famille d'Abraham. Il se dit que c'est là-bas qu'il va falloir réaliser le projet d'Abraham Avinu, c'est-à-dire de diffuser les valeurs d'Israël. En effet, alors que par la suite il se trouve que Yosef est entraîné en Égypte malgré lui, en fait il rêvait déjà de cela quand il était encore libre. Il a deux sortes de rêves qui nous sont présentés dans la Torah. Tout d'abord, il rêve que la famille ne s'occupe plus de faire paître des troupeaux, ce qui est suffisant pour faire vivre la famille, mais s'occupe d'agriculture, de ramasser le blé. La récolte du blé devient l'occupation familiale dans le rêve de Yosef. Et il se voit à la tête de ce projet, puisqu'il dit que les gerbes de ses frères, dans son rêve, se prosternent devant sa gerbe à lui. C'est-à-dire qu'il se voyait déjà comme le dirigeant politique de cette famille qui s'occuperait d'alimenter le monde entier. C'est-à-dire que le projet de Yosef consiste à amasser une grande quantité de nourriture, que cette nourriture ne serait pas simplement, ne servirait pas seulement à alimenter la famille, mais à alimenter le monde entier. Et donc, il y a donc dans le projet de Yosef cette idée que la rédemption du monde passerait par l'économie. C'est un projet extrêmement réaliste qui connaît la nature des choses telles qu'elles sont, donc il faut donc passer par l'économie pour amener la rédemption du monde. Finalement, c'est ce qui va se réaliser, effectivement. Et on peut dire donc que Yosef a une sorte de rêve prémonitoire. Et ce qui lui est arrivé, on peut dire malgré lui, à travers des péripéties extrêmement désagréables, puisqu'il est vendu en esclave, qu'il est fait prisonnier en Égypte, mais finalement, il lui arrive ce qu'il voulait qu'il lui arrive. D'autre part, il a un deuxième rêve dans lequel il est question de la nuit. C'est-à-dire qu'il voit le soleil, puis la lune, puis les étoiles. C'est exactement la manière dont on entre dans la nuit. Au début, il y a le soleil, et après, il y a le soleil et la lune. Après, il y a la lune et les étoiles, et puis après, la lune se couche, il ne reste que les étoiles. C'est-à-dire que Yosef considère que la famille d'Abraham doit agir à la manière d'étoiles qui illuminent la nuit des nations. Et donc, effectivement, il est, pourrait-on dire, à tentation exilique, c'est, si vous voulez, l'auteur du judaïsme cosmopolitique au sein de la famille de Yaakov. Alors, son opposant, évidemment, c'est essentiellement Yehuda, le plus brave des frères, mais qui entraîne avec lui l'ensemble des frères dans une lutte, qu'on peut dire, politico-spirituelle, qui va affronter ici deux principes. Selon Yehuda, la destinée de la famille hébraïque, c'est justement de vivre dans son cadre national, Eretz Israël, et à partir de là, rayonner sur l'ensemble des nations, c'est-à-dire que la vocation de Yehuda est réellement universelle, mais elle ne passe pas par l'exil. Il est tout à fait possible qu'à ce moment de l'histoire de Yehuda, Yehuda ne pense pas encore véritablement à l'universel, qu'il pense essentiellement au national. C'est-à-dire pour lui, il faut en tout et pour tout, s'occuper du peuple hébraïque et donc de réaliser l'emprise sur le sol des restes d'Israël. Et c'est ça qu'il va donc entreprendre. Alors, ce conflit devient très grave parce que finalement, les frères de Yosef vont vouloir le mettre à mort. Ils vont le juger, ils vont le mettre dans un tribunal. En effet, nous voyons que son père, Yaakov, l'envoie chez ses frères. Je lis ici le texte. Quand il dit Vayomer Israël El Yosef, Israël dit à Yosef, Halo achecha roim bishrem, tes frères sont en train de paître à Shrem, lecha veishlachacha alehem, va, je t'enverrai vers eux. Vayomer lo hineni. Ce qui veut donc dire, en substance, tes frères s'occupent de diriger, ce sont des bergers, ce sont eux qui s'occupent actuellement de la direction du peuple, je vais t'envoyer chez eux. Ce qui veut dire, je vais t'envoyer au jugement, tu vas être jugé par tes frères. Et il dit, me voici, c'est-à-dire il est prêt à accepter l'épreuve du jugement, de la confrontation de ses idées, de ses opinions, en présence de ses frères. Et Vayomerlo, lechna re'et shelom achecha ve'shelom atzon. Il lui dit, va donc, vois la paix de tes frères et la paix du troupeau, va shiveni davar, et donne-moi un compte-rendu. Cela veut donc dire que là commence toute une longue histoire dans laquelle ça doit aboutir à la paix entre Yosef et ses frères. Et on peut comprendre pourquoi est-ce que Yosef n'a pas envoyé de message à son père tant qu'il n'avait pas fait la paix avec ses frères. En effet, son père lui avait dit, il faut d'abord que tu fasses la paix, une fois que tu auras réalisé cela, eh bien tu me parleras. Et ça explique un peu ce qui s'est passé par la suite. 22 ans ça a mis pour faire cette paix, mais c'était indispensable. Le texte nous dit que Yosef et ses frères ne s'entendaient pas du tout. On nous dit « Velo yachelou dabero le shalom ». Ils ne pouvaient pas lui parler de paix. Et effectivement, c'est très important de ne pas mentir. Les Chachamim nous disent à ce propos qu'il y a un grand mérite de la part des frères de Yosef, c'est que, et de Yosef lui-même, c'est qu'ils n'ont pas voulu faire la paix. C'est-à-dire, tant que les opinions n'étaient pas coordonnées, tant qu'ils n'avaient pas vérifié tout ce qu'il fallait vérifier, eh bien, on ne pouvait pas se mentir à soi-même. Donc, l'absence de paix entre les frères, qui est en soi déplorable, quand même dénote d'une recherche de la vérité qui fait que finalement, ça a abouti. Malgré les grands dangers, en fait, la famille a failli être détruite par cette discorde, mais finalement, ils en sont quand même arrivés à quelque chose. Et donc, Yosef est opposé à Yehuda, qui lui veut rester en Eretz Israël. Quelle est la position de Yaakov dans toute cette histoire? Eh bien, Yaakov, le père, a une position extrêmement complexe. Nous voyons ici le texte qui nous dit au chapitre Lamed Zayin, au verset Yud, « Vayesaper el aviv el chav ». Il raconta cela à son père et à ses frères. « Vayigar bo aviv », son père le réprimanda, « Vayomerlo », il lui dit. « Ma halom aze asher chalamta », qu'est-ce que ce rêve que tu as rêvé ?« Havo navo ani veimcha vachecha lishtachavo techa arsa », est-ce que nous viendrions, moi, ta mère et tes frères, se prosterner devant toi. Vaikanubo Echav, Veaviv, Shamar et Tadavar. Ses frères le jalousèrent et son père garda la chose. Alors, d'une part, au niveau, disons, public, il y a une réprimande de Yaakov qui reproche à Yosef ses rêves, mais qui, en fait, dans le secret de son cœur, attend que ce rêve se réalise. Ça veut donc dire qu'il y a ici une conscience du fait que pour qu'on aboutisse à quelque chose de positif dans la vie du peuple, il faut laisser toutes les opinions s'exprimer, même quand elles sont erronées. En effet, finalement, toute l'histoire de Yosef et de ses frères va aboutir au fait que, finalement, c'est Yosef qui va reconnaître l'échec de sa tentative exilique et qui va admettre la primauté de l'opinion de Yehuda. En tout cas, ça explique également ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que les frères, finalement, n'ont pas mis à mort Yosef? Parce que quand ils l'ont jugé de manière peut-être un peu cavalière, un peu violente. Mais en tout cas, il est évident qu'il a été quand même jugé. Il y a eu un conseil de famille, si l'on veut, qui a décidé que Yosef mettait en danger le devenir du peuple. Surtout qu'il y avait déjà une expérience. Abraham avait déjà tenté l'exil, la vie exilique chez Nimrod. Et ça s'était achevé par une tentative d'extermination d'Abraham, de Shoah. Et puis Yitzhak avait essayé chez Avimelech, ça n'avait pas marché. Yaakov avait essayé à nouveau chez Lavan, ça a à nouveau échoué. Et nous avons une grande règle dans la halakha, c'est que quand quelque chose se produit trois fois, c'est ce qu'on appelle chazaka. Nous savons que c'est comme ça pour toujours. Et donc, il était évident que la tentative de Yosef mettait en danger le peuple, et donc, au nom de la sécurité nationale, si l'on peut dire, les frères avaient décidé que Yosef était coupable de mort. Seulement, le principe est qu'on ne tue pas son frère. Et donc, la belle expression qu'ils emploient, c'est « venir e maïyu halomotav ». Nous verrons bien quels seront ses rêves, c'est-à-dire, il faut que de toute façon, ça se fasse. Parce que si Yosef avait été mis à mort, eh bien, un autre Yosef se serait levé pour tenter son projet. Donc il fallait le laisser faire. Venire Mayur Halomotav, et finalement, c'est toute l'histoire de Bereshit jusqu'à la fin du livre qui va nous démontrer la tentative de Yosef et la tentative de Yehuda. Donc je pense que les choses sont claires, et finalement, Yosef, au lieu d'être mis à mort par ses frères, va être vendu. Or là, il y a tout un petit problème d'exégèse qui a fait verser beaucoup d'encre. C'est la question que je voudrais poser de cette manière. Qui a vendu véritablement Yosef? Nous avons l'habitude, parce que nous lisons un peu rapidement le texte et que nous sommes influencés par la tradition de Rashi, de penser que c'est très simple, ce sont les frères de Yosef qui l'ont vendu. Et d'ailleurs, nous avons plusieurs traditions midrashiques qui disent que, par exemple, les 10 sages qui se sont fait assassiner par les Romains après la destruction du deuxième temple, ça venait expier la faute des frères qui avaient vendu Yosef. Se basant sur le texte du prophète qui dit qu'Israël est coupable d'avoir vendu pour de l'argent le juste. Alors, quel est le juste qui a été vendu pour de l'argent? Eh bien, on dit, c'est Yosef. Mais si on rentre dans le détail du texte, on voit que ce n'est pas du tout évident. Il y a une Vayeshevu le'echol lechem, on nous raconte, non, avant cela, Vayik asher ba Yosef et l'Echav, ce fut lorsque Yosef, c'est dans le Shlishi, c'est-à-dire au chapitre Lamed Zayin, au verset Kaf Gimel, chapitre 37, verset 23, Vayik asher ba Yosef et l'Echav, ce fut lorsque Yosef s'approcha de ses frères. Vayafchitu et Yosef et Koutonto et Ketonet apasim asher alav, ils déshabillèrent Yosef de sa tunique bariolée qu'il avait sur lui, Vayikahu, donc ils le prirent, Vayashlichu oto abora, ils le jettent dans un puits. Le puits, Yosef est jeté dans le puits sans sa tunique. Veabore, kenbomaim, le puits était vide, il n'avait pas d'eau. Vayeshevu lechol lechem, ils s'installèrent pour manger leur repas. Évidemment, on peut s'imaginer que pour manger le repas, ils n'étaient pas au bord du puits, puisqu'il est probable que Yosef criait et demandait pitié pour sa vie, effectivement, comme il s'est dit plus tard. Et donc, pour ne pas entendre ses cris et ses plaintes, il est probable qu'ils ont dû s'éloigner du lieu où ils avaient jeté Yosef, disons de 500 mètres, quelque chose de ce genre. Vaïsou enehem vaïrou. Ils levèrent les yeux et virent. Ça veut dire quoi? Ils levèrent les yeux. L'expression biblique lever les yeux signifie regarder au loin. Donc ils ont vu que de très loin. Veine orhat Ishmaélim ba Gilad, qu'une caravane d'Ismaéliens venait de Gilad. Or le Gilad de la région de Shrem apparaît, mais effectivement assez loin, au fond de l'horizon. Ugmalehem noseim nechot utzrivalot, et leurs chameaux portaient des parfums, des aromates et du lotus. Holechim leorid mitzraima, qu'ils amenaient pour descendre en Égypte. C'était donc des marchands d'aromates et de bonnes odeurs. Vayomer Yehuda Elechav, Yehuda disait donc à ses frères, alors qu'ils étaient en train de manger, Ma betza kinarog et achinu v'chisinu adamo, quel avantage aurons-nous de tuer notre frère et de recouvrir son sang? Lechou venim kerenu la Ishmaelim, allons, vendons-le aux Ismaéliens, veyadenu alteibo, que nous ne le frappions pas. Ki achinu besarinu, car c'est notre frère, notre chair. Vaishmaou et Hav, ses frères l'entendirent. Alors, on peut toujours à nouveau s'imaginer la scène. Yehuda et ses frères sont en train de manger, Yosef est au loin, et on voit encore plus loin une caravane de Béné Ishmael, d'Ishmaélim, auquel on veut vendre Yosef quand ils arriveront à proximité. Donc il y a encore le temps. Vayahavru anashim midianim soharim. Et alors passèrent des hommes, des midianites, des marchands. Si c'est des midianites, ce n'est pas des Ishmaélim, c'est quelqu'un d'autre. Vayimshechu vayalut Yosef minabor. Ils enlevèrent et levèrent Yosef du puits. Ceci probablement donc sans la connaissance des frères. Et ça se fait à leur insu. Vayimkeru et Yosef la Ishmaelim be'esrim kasef. Et ils vendirent Yosef au Ishmaelim pour 20 pièces d'argent. Vayaviu et Yosef mitzrama. Ils amenèrent Yosef en Égypte. Donc, si on prend ça littéralement, ce sont les Midianites qui ont enlevé Yosef du puits à l'insu des frères, qui l'ont vendu aux Ishmaélim, et donc les frères ne sont pas du tout au courant du fait que Yosef est absent. Vayashov Reuven est là-bas, Reuven vint vers le puits. Pourquoi? Il est arrivé vers le puits pour se rendre compte de ce qui se passait, puisqu'on préparait Yosef à la vente. Veine en Yosef Babor, et voici que Yosef n'était pas dans le puits. Vayikra et Begadav, il déchira ses vêtements. Alors, qu'est-ce que Réhouven et d'ailleurs les frères ont pu penser? Comment se sont-ils expliqués à eux-mêmes la disparition de Yosef? Eh bien, ils ont dû se dire qu'il avait été dévoré par une bête féroce. C'est-à-dire l'histoire qu'ils vont par la suite vendre, comme on dit, à leur père, comme quoi Yosef a été déchiré, ils le pensent eux aussi. C'est ça d'ailleurs qui leur donne l'idée de prendre la tunique de Yosef qui était chez eux, de la tremper dans du sang de chevreau pour dire que Yosef a été enlevé. Effectivement, c'est ce qu'ils pensent, c'est pour eux le scénario le plus probable. Donc, en fait, ils ne savent même pas qu'ils ont vendu Yosef. Bon, ça c'est l'interprétation défendue par le Rashbam, le petit-fils de Rashi, qui affirme que c'est effectivement comme ça qu'il faut lire le texte. Rashi, par contre, n'a pas lu de cette manière. Selon Rashi, ce sont les frères eux-mêmes qui ont vendu Yosef. Ce qui est effectivement assez ambigu dans le texte, c'est qu'il n'y a pas de sujet au verbe. Lorsque je lis ici dans le verset Tafret, on dit « Vayim keru et Yosef, ils vendirent Yosef, la Ishmaelim aux Ishmaelim ». Et alors on peut très bien affirmer que c'est la suite du début du verset où il est question des Midianites, mais il est tout à fait possible également de dire que ce sont les frères. C'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté du texte qui fait qu'on ne nous dit pas si c'est les frères ou les Midianites qui ont vendu Yosef. C'est comme si le texte était intéressé à ce que le débat entre Rashi et Rashbam s'établisse. On peut dire qu'il y a ici une particularité du texte biblique qui est de créer à l'avance des ambiguïtés qui vont entraîner les différentes interprétations. Et quelle est l'intention de la Torah quand elle fait cela? Eh bien, elle peut nous dire qu'en fait, d'une part, il faut que le lecteur pense que les frères ont vendu Yosef. Il faut également que le lecteur pense qu'ils ne l'ont pas vendu. Quelle est la réalité historique? Peu importe. Mais on pourrait dire que il est probable que c'est le Rashbam qui a raison. C'est-à-dire, historiquement parlant, ce n'est pas les frères qui ont vendu Yosef, mais c'est eux qui ont voulu le vendre. Donc, le fait d'avoir voulu le vendre les rend coupables, à tel point même que le texte de la Torah par la suite va nous dire « c'est vous qui avez vendu Yosef ». Mais il était intolérable aux yeux de la Providence que le peuple juif naisse d'un acte aussi répréhensible, et donc la Providence a empêché les frères de le vendre pour qu'il soit vendu par d'autres. On peut voir d'ailleurs ce thème qui revient dans d'autres sujets, par exemple l'histoire de David et Bathsheba, cette affaire malheureuse où le roi David est amené à prendre Bathsheba, qui était la femme d'un de ses généraux de son armée, qui il s'empare donc de la... C'est quand même assez déplorable. Il s'empare donc de la femme de son général, qu'il envoie d'ailleurs se faire tuer à la guerre. Et le Talmud nous dit, non, rien de tout ça. « Kola Omer David Hata et Nolato » et celui qui pense que David a péché se trompe. En fait, elle était déjà divorcée puisqu'elle avait reçu un acte de divorce avant que son mari parte à la guerre. Et de toute manière, son mari était coupable de mort parce qu'il fomentait une révolte contre David. Donc c'est très bien qu'il ait été tué. Donc à la limite, on pourrait dire d'après les rabbins du Talmud que non seulement David n'est pas à condamner, mais au contraire, qu'il faut le remercier d'avoir permis le rétablissement d'une pauvre veuve de guerre. Et enfin, ça a l'air absolument incroyable, parce que le prophète Nathan, après, vient faire des reproches à David. Alors, la Guémara, le Talmud, n'est-il pas au courant des reproches de Nathan? Et puis, le prophète Nathan ne connaît-il pas les arguments du Talmud? En fait, il faut comprendre ça de cette manière, c'est une interprétation du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague dit qu'en fait, David était condamnable parce qu'il avait voulu s'emparer de Bathsheba, même mariée, et qu'il voulait la mort de Uria, son mari, même s'il n'était pas en révolte. Mais la Providence n'a pas voulu que le fondateur de la dynastie messianique se rende coupable de tels actes, et donc elle en a empêché. Elle en a empêché en arrangeant les choses de telle manière qu'effectivement Bathsheba était déjà divorcée et que Uria était véritablement coupable de mort pour d'autres raisons. Donc on voit effectivement qu'il y a toujours cette dualité dans le texte qui fait qu'on peut comprendre le même événement sous deux aspects qui sont tous les deux importants à comprendre. Et donc, dans toute cette histoire, Yosef finalement arrive en Égypte et on peut se demander ce que Yosef lui-même pense de cette histoire. Est-ce que Yosef a une théorie à lui sur la raison pour ce qui lui est arrivé? Parce que si on prend par exemple l'interprétation du Rashbam, comme quoi il a été enlevé par les Midianites, il ne sait pas si ce sont ses frères qui ont indiqué aux Midianites sa présence dans le puits, ou non. Il s'imagine probablement que si les Midianites sont arrivés au puits, c'est que les frères ont dit « il y a quelqu'un à vendre ». Et donc il accuse ses frères, bien qu'ils ne soient pas eux-mêmes conscients d'en être coupables. Qu'est-ce qu'il pense du rôle de son père dans cette histoire? Pense-t-il qu'il a été vendu par ses frères sur ordre du père, ou pas? Ça explique peut-être ce doute, cette ambiguïté explique le silence de Yosef pendant même le temps où il est vice-roi en Égypte, lorsqu'il n'envoie pas un message à son père pour lui dire « Papa, je suis vivant ». C'est peut-être parce qu'il se demande si son père n'aurait pas été, sait-on jamais, dans cette histoire. Et donc, on peut très bien comprendre que Yosef est rongé par un doute qui ne sera réglé finalement que lors du de la révélation qu'en fera Yehuda dans son discours pour sauver Binyamin, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, ça, on anticipe un peu sur les parachiotes à venir. En tout cas, le texte de la Torah interrompt brusquement l'histoire de Yosef pour nous parler d'une autre histoire. Et au chapitre La Maîtresse, on nous parle de l'histoire de Yehuda. Yehuda, le frère de Yosef, de son mariage, de ses aventures de mariage, ses enfants et tout le reste. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire dans toute cette histoire de Yehuda et de ses frères? On nous dit, par exemple, « Vayehi ba'etahi, vayered Yehuda me'etechav ». En ce temps-là, Yehuda descendit de ses frères. C'est, on nous raconte ici la manière qu'a Yehuda de descendre. Alors, quand Yehuda descend, alors descendre, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça veut dire peut-être qu'il descend géographiquement, effectivement, il quitte la montagne pour s'installer dans la plaine de Timna et dans la région de Adulam, qui est une région de plaine. Ça peut peut-être également signifier une chute morale. En effet, Yehuda s'embrouille dans des histoires de femmes qui ne sont pas très graves, mais enfin qui ne sont pas tellement nobles non plus. Et il va donner naissance, dans cette histoire-là, aux ancêtres du Mashiach, c'est-à-dire aux ancêtres du roi David, à travers sa bru Tamar, qui va devenir sa femme, et dont il va avoir deux fils, Pérez et Yehuda, et Pérez étant l'ancêtre du roi David. Et tout se passe d'ailleurs d'une manière extrêmement compliquée. Yehuda semble faire un péché. Finalement, il s'avère, pour ceux qui lisent le texte, je laisse aux auditeurs le loisir de goûter eux-mêmes à l'aventure. Yehuda finalement apprend qu'il avait cru qu'il avait péché, mais en fait il n'avait pas vraiment péché. Et Yehuda, qui a failli condamner sa bru à être brûlée vive pour un péché qu'elle n'avait pas fait, finalement reconnaît son erreur. On peut dire que Yehuda est l'inventeur de la Teshuva. C'est-à-dire qu'il apprend à descendre et à remonter. C'est très intéressant de voir que cette idée de la Teshuva, qui est devenue une idée commune du judaïsme, très, très bien connue, était une innovation pour Yehuda. D'ailleurs, il y a un jeu de mots là-dessus que font les Chachamim. Yehuda veut dire celui qui reconnaît. Il reconnaît sa faute. Yehuda Sheoda. Et par contre, quand il est question de Yosef, au chapitre Lamed Tet, alors c'est très différent. Il est dit non pas que Yosef est descendu, mais qu'il a été descendu. Yosef Hura Mitzrayim. Yosef a été descendu en Égypte. Il est passif. En effet, la descente de Yosef en Égypte ne peut pas être le fruit d'une initiative voulue. Ce serait grave que Yosef veuille descendre en Égypte de manière consciente. Il faut que ça lui soit imposé par les événements. C'est le contraire de Yehuda. Et on peut dire que Yosef, quand il veut dans son inconscient descendre en Égypte, sait qu'il va rester juste. Yosef est un tzaddik. En quoi est-il tzaddik? Il est tzaddik dans le sens qu'il reste dans son intégralité hébraïque. Finalement, quand il est confronté à la femme de Poutiphar qui va vouloir le pousser au péché, la tentation de la femme de Poutiphar, il va refuser. Et donc, on peut dire que Yosef, lui, ne se trompe pas là où Yehuda a pu se tromper. On peut dire que Yosef, c'est le tzaddik. On peut dire que, d'une certaine manière, la rivalité entre Yosef et Yehuda s'explique comme étant autour du débat qu'il y a dans le Talmud pour savoir qui est préférable à qui. Est-ce qu'il faut préférer le tzaddik gamour, c'est-à-dire le juste qui n'a jamais péché, ou est-ce qu'il faut préférer le baal teshuva, celui qui a péché mais qui est revenu de cela? Le débat dans le Talmud n'est pas tranché. En fait, c'est le débat entre Yosef et Yehuda. Yosef, en tant que tzaddik, sait qu'il n'a pas le droit de pécher, parce que s'il pêche, il n'y a plus de voie de retour. En effet, le Talmud nous raconte que lorsqu'il a été tenté par la femme de Poutiphar, il s'apprêtait finalement à succomber à sa tentation. Et le Talmud nous dit ce qui l'a empêché au dernier moment, c'est qu'il a vu le visage de son père. Alors, psychanalytiquement, on pourrait dire que c'est une sorte de castration par visage paternel, mais en fait, ça veut dire quelque chose de très fort. Ça veut dire qu'il a compris que s'il succombait à l'appel de la femme de Poutiphar, en fait, ça veut dire que ses enfants ne ressembleraient plus à son père. Donc il était perdu. Parce que, en exil, aller chez la femme de Poutiphar, c'est perdre totalement son identité. Et donc, c'est ça qui l'a sauvé. Parce qu'il n'a pas le droit de pécher, il reste tzaddik. Tandis que chez Yehuda, puisque lui reste dans le cadre de l'être national, il reste en Eretz Israël, il y a une certaine protection. Il pourrait à la limite même presque se permettre le péché puisqu'on peut faire le tikkun, puisqu'on peut faire la réparation. Donc on peut dire que Yehuda, lui, tombe dans le péché, mais il peut sortir du péché. Il connaît le secret de la teshuva. Ce que l'on va apprendre dans la suite du texte, dans les parachutes à venir, c'est que c'est Yehuda qui va apprendre à Yosef que la teshuva est possible, et c'est Yosef qui va apprendre à Yehuda que rester tzaddik, même en exil, est possible. Et en fait, ça explique bien des données de l'identité juive telle qu'elle s'est développée dans l'histoire. Finalement, il se passe quelque chose de très surprenant. Quand Yosef arrive en Égypte, il est jeté finalement en prison. Il est jeté d'abord, il est vendu d'abord chez Poutifar, qui par la suite, puisqu'il va soupçonner Yosef d'avoir voulu s'emparer de sa femme, va le jeter dans la prison d'Égypte. Et là-bas, il va rencontrer des princes égyptiens qui sont eux-mêmes en prison, le maître Échanson et le maître panetier du pharaon qui sont là-bas. Or, ce qui est très surprenant, c'est que les deux maîtres en question vont rêver. Or, le rêve dans le livre de Bereshit n'est pas un hasard, c'est une révélation prophétique. Et on voit effectivement dans tout le livre de Bereshit que les rêves sont l'apanage de la famille d'Abraham. Yaakov, quand il sort en exil, a un rêve. Il voit l'échelle qui relie le ciel et la terre. Et il transmet sa faculté de rêver à son fils le rêveur, Yosef. La présence d'un Hébreu en Égypte va être contagieuse. L'entourage immédiat de Yosef se met à rêver. Et dans cet entourage immédiat, finalement, ce qui se passe, c'est qu'un des prisonniers, le maître Échanson, va être libéré de sa prison. Il va revenir dans le palais royal et après 2 ans, le chef politique de l'Égypte, le pharaon lui-même, va lui aussi rêver. On peut dire qu'une certaine manière, ce que les Hébreux ont à enseigner aux nations, c'est que le rêve est possible. Le rêve permet de se relier avec une réalité qui est extérieure à la réalité concrète. C'est ce qui permet finalement l'espoir et la guérison. D'ailleurs, en hébreu, le mot « halom », qui veut dire « rêver », vient de la même racine grammaticale que « guérir »,« ahlama ». Et effectivement, Yosef se mêle des rêves de ses compagnons de cellule, si l'on peut dire, parce qu'il sait qu'en inoculant en eux la sensibilité à l'interprétation des rêves, il va accéder finalement à la domination de l'Égypte. Il ne sait pas encore de cette manière que ça va se faire, mais il comprend qu'il a quelque chose à transmettre à l'Égypte et que ça passe par le rêve. Une petite remarque quand même pour finir, c'est qu'à la fin de la paracha, au chapitre même, au verset Tedvav, chapitre 40, verset 15, Yosef, quand il fait son petit discours au maître Échanson pour lui demander d'intercéder en sa faveur auprès de Pharaon, il lui dit... J'ai été enlevé, Gunov Gunavti, on m'a enlevé, mais Eretz Haïvrim du pays des Hébreux. Très intéressant. Cela veut dire que l'Égyptien en question, qui est un fonctionnaire égyptien, quand on lui parlait du pays des Hébreux, il savait ce que cela voulait dire. Or, on aurait très bien pu supposer qu'à l'époque, étant donné que le pays était cananéen, il fallait lui dire « je viens de Canaan ». Cela veut donc dire que tout le monde savait de notoriété publique que, avant d'être cananéen, ce pays avait été hébreu, que les ancêtres d'Abraham, les ancêtres de Terah, avaient vécu là-bas avant d'être exilés en Ur-Kasdim. Et donc ça nous donne un éclairage tout à fait nouveau sur la famille d'Abraham, qui lorsqu'elle quitte Ur-Kasdim pour se rendre en Eretz Israël, ne va pas dans un pays qui lui est inconnu, mais au contraire, inaugure finalement ce qu'on appelle le sionisme politique, le retour de l'exil pour revenir à la terre ancestrale. Et la suite, évidemment, au prochain numéro. Shalom.